franceinter.fr.
Et un bel espoir pour les diabétiques de type 1 aujourd'hui à la une de la science.
Est-ce que tu as mangé ou bu quelque chose de spécial aujourd'hui ?
Non, pas du tout, je suis diabétique.
Ah. Et t'as mesuré ton taux de glycémie ?
Oui, il est à 1,10 g.
Mm-hmm. T'as des fourmillements dans les jambes ? Tu te sens engourdi ?
Oui.
Bon, écoute, moi je pense que tu fais une crise d'hypoglycémie. Alors, on va dire que pour toi c'est une banane et 4 morceaux de sucre.
Voilà, extrait du téléfilm « Tirer la langue, mademoiselle » en 2013. Et ce diabète de type 1, une maladie auto-immune qui touche près de 200 000 personnes en France et qui ne connaît pour l'instant aucun traitement efficace. Mais votre étude parue cette semaine dans la revue Cell pourrait changer la donne. Bonjour Patrick Colomba.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de biologie Valrose de Nice. Et donc vous montrez que le GABA, un simple neurotransmetteur naturellement présent dans le corps, est capable de régénérer les cellules détruites par le diabète. Alors expliquez-nous d'abord ce qu'est exactement ce neurotransmetteur, le GABA.
Alors le GABA est en fait un petit peptide, donc une molécule qui est présente dans chacun de nous, qui joue un rôle en fait dans la transmission nerveuse. Il est aussi produit au niveau du pancréas, et ce que nous avons pu démontrer aujourd'hui, c'est que cette molécule est en fait active pour induire la régénération des cellules qui produisent de l'insuline, ces cellules qui sont manquantes chez les patients atteints de diabète de type 1.
Alors, comment est-ce que vous avez découvert que ce neurotransmetteur avait un effet sur les cellules du pancréas de la souris ? Parce que c'est chez la souris que vous avez commencé ce travail.
Exactement. Donc, en fait, c'est une longue histoire. Nous avions démontré, il y a de ça quelques années, que certaines cellules du pancréas, que l'on appelle des cellules alpha, ce sont des cellules qui produisent du glucagon, c'est une hormone qui fait augmenter le taux de sucre sanguin. Donc, nous avions pu démontrer que ces cellules alpha était sous l'effet de manipulation génétique, capable de devenir des cellules bêta qui fabriquent de l'insuline. Mmh. Et en fait, le corps détecte que ces cellules alpha qui ont été converties en cellules bêta sont manquantes et va les régénérer. Et ainsi de suite. Donc ces cellules régénérées deviennent des cellules bêta, etc. Et c'est un cercle vertueux qui induit la régénération des cellules qui fabriquent de l'insuline. Donc tout ça, ça date de quelques années. C'était le fruit de manipulation génétique, donc de souris génétiquement modifiées. Donc l'idée était bien entendu ensuite de passer chez l'homme. Et pour passer chez l'homme, évidemment, on ne peut pas générer d'humains génétiquement modifiés. Donc nous sommes associés avec de grands laboratoires à Harvard, au Danemark, en Allemagne. Et nous avons testé en fait des milliers de molécules pour vérifier s'il n'y en avait pas une qui puisse en fait induire tous ces processus. Et c'est ainsi qu'on a pu isoler le GABA et démontrer que le GABA peut induire la régénération des cellules qui fabriquent de l'insuline, pour l'instant chez la souris.
Alors le GABA est connu depuis très longtemps, d'ailleurs il est en vente libre dans le commerce. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens, en entendant ce qu'on se dit là, se précipitent à acheter de cette molécule directement ?
Et si, c'est justement notre peur. Et là on déconseille fortement, et j'utilise une antenne pour le dire, on déconseille fortement d'aller acheter du GABA sur internet à l'heure actuelle. Donc ce qu'on a pu démontrer, c'est vraiment un effet chez la souris. On a aussi fait des tests sur des tissus humains. Mais à l'heure actuelle, on a un essai clinique qui est en cours, qui va vérifier si le GABA peut effectivement soigner les diabétiques de type 1.
Pourquoi est utilisé le GABA aujourd'hui ? Quel est le but de l'utilisation qu'en font les personnes qui l'achètent ?
Alors, le GABA est utilisé principalement pour deux actions. Une action anxiolytique et une action aussi chez les culturistes pour augmenter la masse musculaire. Donc, il est relativement clair que ces deux effets sont très discutable, mmh. Mais l'avantage étant que ces personnes qui prennent du GABA, même si l'effet reste discutable, ne présentent pas de soucis quelconques, ce qui démontre que le GABA en soi n'est pas toxique.
Jean-Pierre Changeux, le neurotransmetteur GABA, bien connu évidemment.
Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Et un neurotransmetteur qui est inhibiteur dans le cerveau de l'homme et qui doit être balancé par un autre neurotransmetteur dit excitateur, par exemple le glutamate. Et il existe une balance entre excitation et inhibition. Et une rupture de cette balance peut par exemple entraîner l'épilepsie. Donc le GABA est aussi, et ses dérivés peuvent être utilisés comme un neurotransmetteur essentiellement anti-épileptique, mais aussi le récepteur du GABA, donc la protéine qui reconnaît le GABA, peut être exaltée, si j'ose dire, par les benzodiazépines, par les tranquillisants et avoir un effet sédatif chez l'homme.
Patrick Colomba, qu'est-ce qui vous permet de penser que l'effet sera le même chez l'homme et ce que vous avez vu chez la souris?
On a fait en fait tous les tests auxquels on pouvait avoir accès sans passer chez l'homme. Donc on a testé chez la souris. On a testé aussi sur tissus humains, donc qui proviennent de patients en mort cérébrale. Mmh. Et on a pu démontrer, en fait, l'ensemble des preuves qu'on a pu accumuler démontre une conversion des cellules alpha qui produisent le glucagon en cellules qui fabriquent de l'insuline et une régénération potentielle.
Allez, Patrick Colomba, on le disait tout à l'heure, 200 000 personnes touchées par le diabète de type 1, rien qu'en France. Donc évidemment, une annonce comme celle-là, ça donne beaucoup d'espoir et ça laisse entendre aussi des promesses intéressantes. Il faut être mesuré ou vous êtes quand même très confiant? Parce que là, on est déjà chez l'homme quand même, hein, sur les essais que vous menez.
Oui, on est très enthousiaste, mais on reste très 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 prudent. Donc là, les essais vont débuter en mars 2017. Les patients vont être traités avec du GABA. Et là, le GABA qu'on va utiliser, c'est un GABA qui ne va pas dans le cerveau, qui ne traverse pas ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc on n'escompte pas d'effet anti-épileptique ou autre. Donc là, c'est vraiment un effet qui sera localisé. Et donc, on va le tester chez l'homme en 2017, pendant un an. Et au bout d'un an, on aura les premiers résultats.
Quand on dit régénérer le pancréas, on parle bien de soigner le diabète. Vous allez jusqu'à utiliser ces mots?
Chez la souris, c'est en tout cas ce qu'on a pu faire. On a pu recréer les conditions d'un diabète chez la souris. Normalement, la souris doit développer une hyperglycémie du manque de cellules qui produisent de l'insuline. Et en fournissant ces souris avec du GABA, on voit une normalisation de leur glycémie, une augmentation de la durée de vie des animaux, et en fait, une réversion totale du diabète qu'on en avait induit chimiquement.
Et donc avec une fabrication d'insuline, ce qui n'existe plus justement sur le pancréas des diabétiques de type 1, Jean-Pierre Changeux.
Oui, le GABA agit sur plusieurs types de récepteurs, des récepteurs liés à des canaux ioniques et d'autres à des protéines G, métabotropiques. Quel type de récepteur est engagé dans cette conversion des cellules alpha en cellules bêta?
Très bonne question, on voit l'expert. En fait, c'est un récepteur qui s'appelle le récepteur GABA-A. Donc on a utilisé des agonistes de ce récepteur. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer un tout petit peu de quoi vous parlez entre vous?
Si vous pouvez avoir un petit peu plus d'explications, parce que là, bon, on a un petit peu...
Non, c'est simplement celui qui intervient dans l'inhibition des cellules nerveuses sur le plan électrophysiologique.
Merci.
C'est le même. C'est le même, donc, qui serait engagé dans le cerveau. Et là, au niveau des cellules du pancréas.
Merci beaucoup en tout cas Patrick Colomba. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Biologie Valrose de Nice et que votre étude vient de paraître dans la revue Le Cell. Et donc on attend 2018 pour avoir déjà les premiers résultats de ces essais. On se donne rendez-vous, j'espère, dans cette émission pour en parler. Merci beaucoup à vous. Et puis tiens, au sujet du diabète, je vous signale également la parution d'un livre original signé Alban Orsini qui s'appelle « Merci pour ce diabète ». C'est le journal scientifique et humoristique d'un diabétique. Il est publié aux éditions Hugo et Doc et c'est un excellent livre d'un patient expert qui a de l'humour, qui plus est. Ça s'appelle donc « Merci pour ce diabète ». Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les vieux coquillages qui nous servent de mémoire climatique en étudiant la composition des coquilles de Mercenaria. Mercenaria, c'est son nom, une espèce de palourde pouvant vivre plus de 1000 ans. Des scientifiques anglais ont réussi à comprendre les liens historiques étroits entre climat et acidité de l'océan Atlantique. Une avancée méthodologique considérable qui sera certainement très utile pour l'étude du taux de CO2 atmosphérique dans le passé. Les modèles actuels basés sur les sédiments permettent seulement des estimations partielles et sur des périodes de 100 ans maximum. Caribou et papillons monarques sont menacés au Canada. Ces deux animaux, pourtant emblématiques du pays, sont en voie de disparition selon un récent rapport du Comité canadien sur la situation des espèces en péril. Les populations de caribous sont à leur niveau historiquement le plus bas en raison du stress lié aux activités humaines et au réchauffement du Grand Nord. Un déclin record de 95% des hardes dans l'Arctique canadien sur 30 ans a été reporté par l'association WWF. Quant au monarque migrateur, il est menacé notamment par la diminution drastique de ses aires de migration au Mexique. Des actions sont en cours par des scientifiques canadiens et américains pour sensibiliser les pouvoirs publics brésiliens à la protection de ce papillon qui ne séjourne que quelques semaines par an dans le pays. Et puis pour terminer, nous vous offrons une photo de chercheur qui nous a fait craquer. Il s'agit d'un portrait d'Obi, un petit perroquet nain portant des lunettes de protection. Obi participe à une expérience à l'université de Stanford sur la mécanique du vol des oiseaux. Et pour visualiser les mouvements d'air sous ses ailes, eh bien les chercheurs ont installé un dispositif laser qu'Obi doit traverser en s'envole. Mais vous le savez, les lasers sont dangereux pour la rétine, y compris pour les oiseaux. Alors les chercheurs lui ont fabriqué une petite paire de lunettes sur mesure pour éviter toute lésion. Le résultat donne un cliché insolite qui est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré.